Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Solène Mahé.
Bonjour.
Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Avant toute chose, je tiens à remercier la NEF qui est le partenaire de ce podcast et qui est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets socio-écologiques et culturels. C'est un partenariat qui, moi, me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année, des personnes inspirantes comme Solène. Solène, toi, tu es la cofondatrice de la Brocante Verte. C'est une association nantaise qui a pour mission l'insertion professionnelle de personnes sans domicile fixe grâce à la création d'une ressourcerie de plantes. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous parlerons ensemble d'insertion professionnelle, de valorisation des plantes et des végétaux et plus généralement de comment les projets écologiques peuvent avoir aussi un impact social fort. Solène, on commence cet échange avec la question que je pose à tous mes invités. Imagine, tu arrives dans une soirée où il y a des personnes que tu ne connais pas et forcément, au fur et à mesure de la conversation, arrive la question fatidique. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu leur réponds?
Eh bien, moi, je leur réponds que j'ai créé une association, donc je suis la cofondatrice de la Brocante Verte, et je redonne une seconde chance à des hommes et à des végétaux.
Et nous, Solène, on se connaît depuis les Philippines, on avait travaillé ensemble dans une ONG il y a pas mal d'années hein, déjà, et ton parcours professionnel, il a quand même toujours été guidé par une volonté d'améliorer la vie des gens, notamment au Secours catholique, au SAMU social à Paris. Et est-ce que tu peux me raconter pourquoi cette première pulsion-là, s'il te plaît ?
Je pense que cette pulsion, cette envie d'accompagner des personnes, elle a été en moi depuis toujours. Et c'est vrai que j'ai eu un parcours un peu, au début, différent, en fait, des travailleurs sociaux qu'on rencontre, parce que j'ai travaillé 4 ans dans le monde de la communication, pour finalement me rendre compte que c'était pas voilà, le sujet que je voulais travailler continuer à exercer. Et j'ai eu un peu une prise de conscience un jour, en étant dans cette grande agence de com avec qui j'ai travaillé 4 ans, de se dire, mais mon métier, il sert à quoi? En fait, j'étais productrice de packaging et du coup, je créais littéralement des emballages et des conditionnements. Et je passais énormément de temps à relire, à créer des choses qui allaient être regardées et jetées à la poubelle. Et vraiment, ça me posait question. J'ai toujours aimé les relations humaines et je me suis toujours enrichie des rencontres que j'ai faites. Et j'ai décidé de changer de voie complètement et de partir à l'étranger. Donc, j'ai passé un an en Thaïlande avec Enfants du Mékong, où j'étais coordinatrice de programme de parrainage. Et donc là, j'ai plongé dans l'univers de la rencontre des autres et notamment de la vie des plus précaires. Et ça a été une expérience géniale qui m'a permis en fait d'enclencher un tournant en fait et un changement d'esprit, d'envie de changer de vie. Et du coup, j'ai repris mes études pour travailler la vie de son projet, mais dans le domaine social. Donc, j'étais déjà productrice très douée dans la gestion de projet, dans la com, mais j'avais besoin d'avoir une légitimité dans le domaine social, donc j'ai repris mes études. Et puis, je suis repartie en Asie. Et donc, on s'est rencontrés aux Philippines avec l'association Life Project for Youth. Et donc, là, j'ai commencé à travailler dans un contexte de bidonville, hein, puisqu'on vivait au cœur des bidonvilles, j'ai commencé à travailler l'insertion professionnelle des jeunes sans domicile fixe.
Et effectivement, tu parles tout de suite de cette expérience aux Philippines, puisque en fait, l'insertion sociale, elle passait par l'insertion professionnelle. Ensuite, tu es rentré en France, tes expériences, comme je disais, au Secours catholique, au SAMU social, pour découvrir les personnes éloignées de l'emploi. Et donc, je reboucle quand même un petit peu avec ma première question, où tu as répondu très succinctement. Mais est-ce que tu peux me redire, s'il te plaît, à quoi ressemble ton métier aujourd'hui? On met souvent les gens dans les cases, et c'est pour ça que je tiens à te reposer cette question, dans les cases, on va dire, un peu de la Startup Nation, parce que tu es fondatrice, fondateur, tu as lancé un projet, etc., etc. Mais je trouve qu'en fait, ça dit assez mal l'objectif, la mission, la pulsion de vie des gens à travers leur emploi. Et toi, en l'occurrence, tu vis vraiment ton métier comme un épanouissement aussi personnel. Donc j'aimerais que tu me redises un peu, que tu essayes de creuser un peu sur... Concrètement, qu'est-ce que tu fais à la Brocante Verte ?
Oui, concrètement, en fait, c'est un métier qui est entre deux. Moi, j'essaie de résumer parfois ça en disant que je suis horticultrice du social. C'est à la fois, en fait, je suis très dans le faire parce que il faut sauver ses plantes, les soigner, en prendre soin. Il y a un vrai métier et des vraies compétences végétales que je développe, en fait, que je commence à maîtriser. Et puis, en fait, dans cette activité de ressourcerie qui est de réfléchir à comment on peut valoriser les végétaux vivants qui sont voués à être jetés, comment on peut en prendre soin, tout en apportant une utilité, en fait, à des personnes sans domicile fixe. Donc, il y a la partie sociale aussi qui est très forte. Donc, c'est accompagner des gens à reprendre confiance en eux en prenant soin de plantes qui, elles, aussi, on les a un peu lâchées, on les a un peu mises de côté en se disant elles valent plus grand-chose. Du coup, on va les jeter, on va les mettre de côté. Et je trouve ça intéressant, en fait, ce parallèle qui est fait à la Brocante Verte. C'est de partir, en fait, d'une idée d'insérer des personnes sans domicile fixe. Ok, ça c'est mon métier, c'est quelque chose que je maîtrise, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur le sujet avec des personnes à la rue, mais comment trouver avec elles une activité qui leur apporte vraiment du bien-être, une activité qui n'est pas juste on va faire du ménage, on va faire des choses simples, répétitives, c'est souvent ce qui peut être proposé hein, dans les structures d'insertion parce qu'on souhaite démarrer... l'insertion avec des choses simples avec les personnes, et en fait je me rends compte que leur mettre dans les mains cette activité qui apporte en fait un impact sur la société, et pour eux au quotidien de voir des plantes pousser, grandir, reprendre vie, c'est génial. Et les retours qu'on a des personnes qui passent à la Brocante Verte jardiner avec nous, elles sont, enfin c'est des retours hyper positifs après un an d'existence. Et ils nous disent, moi, ça m'a fait du bien. En fait, j'ai complètement coupé. Je suis rentrée dans cet univers végétal et ça m'a enlevé en fait tous mes soucis. Et j'ai passé une heure, deux heures où j'ai oublié un peu ce que je vivais et j'ai pris soin d'autres choses que moi. Et j'ai oublié un peu mes besoins vitaux pour plonger un peu dans cet univers de l'horticulture, et ça leur fait extrêmement de bien.
On voit bien hein, le côté poétique de la démarche où on a en parallèle les gens et les plantes qui se redéploient, grandissent, s'épanouissent. Et donc l'image est forte, et effectivement je pense que ça apporte quelque chose de très concret, de très tangible pour les personnes que vous accompagnez, de voir aussi ces plantes qui, grâce à leur action, grâce à leur activité, grâce à leurs soins, grâce à leur attention, reprennent du poil de la bête. Et donc, à travers ces plantes, les personnes aussi. Et à la fois, toi qui as été très présente sur les sujets sociaux, tu le disais, et on a tout à fait compris le lien de l'insertion professionnelle avec cette exigence de proposer à chacun et à chacune une vie décente. Pourquoi cette intégration des enjeux écologiques dans votre projet ? Est-ce que c'est juste pour le premier postulat poétique là qu'on vient d'évoquer ensemble, ou est-ce qu'il y a quelque chose aussi d'une prise de conscience, de plus profonde, d'une conviction l'intégration de ces enjeux écologiques à votre projet de la Brocante Verte ?
Bah pour nous, je dis nous parce qu'on est deux en fait, on est deux cofondatrices avec Aude. C'était quand on a démarré le projet, déjà on savait qu'on voulait le faire ensemble parce qu'on avait les mêmes valeurs dans le domaine de l'accompagnement des personnes à la rue. On avait les mêmes idées, les mêmes sujets et on veut absolument continuer à travailler avec ce public qui nous inspire parce que c'est un public qui est peu accompagné et qui vit vraiment le présent et ça nous apporte beaucoup au quotidien. Donc on avait ce postulat de base de se dire « Ok, on va travailler avec les personnes à la rue ». Et en fait, on est toutes les deux sensibles au domaine écologique et environnemental et on avait envie que cette création de structure, elle porte assez haut et fort une valeur de s'occuper de ce qui existe, du vivant. Et du coup, c'est vrai que les plantes, ça a une dimension poétique, mais on a mis quand même beaucoup de temps à trouver cette idée. Je pense qu'on a tourné sur plusieurs activités économiques, à réfléchir à plusieurs activités pendant au moins 6 mois. Et aucune ne nous correspondait vraiment. Et les plantes, ça nous a parlé, parce que déjà, on est amoureuse des végétaux et on adore ça. Et on s'est dit, il faut quelque chose qui nous passionne, il faut quelque chose qui nous motive, il faut qu'on s'attaque aussi à un sujet où peu de choses ont été réfléchies aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, en fait, de revaloriser, de prendre soin des légumes les plus moches en supermarché. Il y a des ressourceries d'objets en tout genre, mais on ne parle pas forcément des plantes et de leur parcours. Moi, j'aime beaucoup, en fait, un botaniste qui est Francis Allais et qui dit, en fait, dans son bouquin de l'éloge de la plante, que souvent, on ne fait pas attention aux plantes. C'est-à-dire que on est des humains, donc on va faire attention aux animaux, mais on ne fait pas attention à derrière aux plantes qui nous entourent et elles sont pourtant présentes partout. Et aujourd'hui, on a du mal aussi encore à déclencher des pratiques de consommation sur les plantes. On va acheter un bouquet de fleurs et on se pose très rarement la question de d'où viennent ces fleurs. On va acheter des plantes et on se pose très rarement la question de quel est le travail en fait qui a été fait derrière pour élever cette plante qui fait 2 mètres d'eau. Et c'est des questionnements qu'on a eu envie de pousser avec Aude. On est parti rencontrer l'ensemble des professionnels du monde végétal, l'ensemble de la chaîne. Et au départ, tout le monde nous a dit « Vous allez créer une ressourcerie végétale, c'est un peu une idée folle parce que les plantes, il n'y a pas de gaspillage, on ne les jette pas, etc. » Et puis en fait, on a rencontré des pépiniéristes, des paysagistes, des grossistes, des fleuristes. On se rend compte qu'à chaque moment de la chaîne végétale, il y a forcément des plantes qui sont mises de côté, jetées. Alors ok, elles finissent dans les déchets verts et dans le compost, mais c'est dommage, toute cette énergie qui a été mise pour faire pousser un dragonnier de 2 mètres et parce qu'il est plus très beau et qu'il a des feuilles marron et qu'il n'est pas vendable en magasin, ou le géranium qui n'a pas fleuri au bon moment, on va le mettre de côté parce qu'il ne va pas correspondre à une clientèle, et tout ça, ça finit aux déchets verts. Et nous, on a eu envie de réfléchir à ça. Et on est un peu parti de ce postulat, cette idée qu'on a été vérifié en fait pendant 3-4 mois en passant du temps avec les professionnels en stage. Donc c'était une belle aventure en fait de réfléchir à un domaine qui n'a pas été encore très poussé. Enfin, il y a quelques initiatives qui font pareil que nous et qui démarrent, mais c'est très nouveau.
Et en plus, du coup, on voit bien avec ton exemple que si effectivement l'émerveillement dont on parlait de cette nature qu'on voit évoluer, grandir, est tout à fait nécessaire et au cœur de votre projet, il y a en plus, d'une certaine manière, en creux, la critique de la surconsommation et du modèle mondialisé qui fait voyager ces plantes sur des dizaines de milliers de kilomètres parfois pour tout ça terminer dans la poubelle au bout de quelques jours ou même ne jamais être vendu, comme tu le disais. Donc ça, c'est une critique assez forte en fait de notre modèle, de notre capacité à la surconsommation et aussi en fait presque une démarche politique dans le sens où vous reprenez la plante non pas comme un prétexte mais comme au contraire une vraie valeur ajoutée pour marquer l'interdépendance entre les êtres humains et les végétaux, puisque là vous créez ces relations de codépendance pour aider aussi des autres êtres humains à pouvoir reprendre de bon bout et je trouve que voilà, il y a vraiment quelque chose qui marque tout à fait l'appartenance de ce projet à ces 2030 glorieuses. Donc pour moi, c'était assez évident et je suis très content de te donner la parole par rapport à ça. Tu le disais, vous avez fondé ce projet avec Aude Couturier, qui est du coup l'autre cofondatrice de la Brocante Verte. Et tu as parlé tout à l'heure de votre mission, hein, qui est de redonner une seconde chance à des hommes et des végétaux. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, cette fois, nous donner plus de concret quant à votre projet? Où est-ce que vous êtes basé? Comment vous accueillez les bénévoles? Quels sont les profils des personnes que vous accompagnez pour l'insertion professionnelle, etc., etc., s'il te plaît.
Nous, la Brocante Verte, on est situé à Nantes. Nous sommes au sein d'un tiers-lieu qui s'appelle Le Ouattini, où on a notre espace ressourcerie. Et concrètement, en fait, toutes les semaines, la Brocante Verte, elle ouvre ses portes du mardi au vendredi. Toutes les après-midi pour les citoyens nantais qui peuvent du coup accéder à notre ressourcerie de végétaux et venir acheter et consommer des végétaux de seconde main, des plantes d'intérieur, des plantes d'extérieur, des fleurs également, et des pots et tout ce qui est matière de rempotage. Donc ça, c'est pour la partie végétale. Et on a également une petite pépinière où on prend soin des plantes. C'est un peu un hôpital des plantes où on les vérifie avant de les basculer en ressourcerie. Et tout ça, en fait, on le fait avec des bénévoles aujourd'hui, avec et sans domicile fixe. Donc on s'est constitué une force vive de bénévoles de notre réseau. Et comme on travaille avec les personnes SDF depuis un certain temps, elles sont quand même très présentes dans nos équipes bénévoles. On accueille également des associations d'urgence sociale qui viennent faire des après-midi dynamisation avec les personnes de leur accueil. Voilà, sur 2 heures, reprendre soin des plantes avec nous. Et donc, toutes ces étapes de valorisation, on essaye de le faire avec nos bénévoles. Et là, la Brocante Verte, elle va passer une phase clé parce qu'on va demander notre agrément pour devenir chantier d'insertion. Et on souhaite, en fait, proposer en fin d'année du travail à l'heure pour 4 personnes sans domicile fixe. Et donc, leur permettre d'avoir un emploi qui s'adapte un peu à leur vie et à là où elles en sont. C'est-à-dire de commencer à travailler 3 heures, puis au fur et à mesure de monter un petit peu, 6 heures, 20 heures, et réfléchir avec elles leur projet de vie. Qu'est-ce qu'elles souhaitent faire par la suite ?
L'association, elle est toute récente. Elle fonctionne depuis un peu plus d'un an et demi. Et à la fois, la dynamique, elle est assez folle, en fait. Hein. On ne va pas trop s'étendre sur les chiffres, sur les tonnes de végétaux sauvés, sur le nombre de bénévoles que vous avez déjà réussi à engager. Et à la fois, j'aimerais que tu me dises quand même, pour cette dernière question, Solène, quels sont les pousses de ce projet dont tu es la plus fière aujourd'hui, après seulement un an et demi d'existence ?
Oui, il y en a plusieurs, c'est difficile de choisir, mais je pense que moi, ce qui m'apporte vraiment du bonheur au quotidien, c'est de voir que la Brocante Verte commence à être connue des personnes sans domicile fixe. Et c'est eux, en fait, qui font la promotion de l'association auprès des personnes qu'ils connaissent et des associations dans lesquelles ils vont. Et du coup, c'est assez chouette, on a une personne qui est sans domicile fixe et qui est là depuis le début et qui a dit à son association hébergeante, mais venez, il faut qu'on fasse des sessions avec la Brocante Verte, c'est trop chouette. Ça, je pense que c'est vraiment la plus belle pousse. Et puis, y a aussi le changement de regard des professionnels hein, qui sont très présents dans notre activité, qui s'engagent avec nous. Et je tiens vraiment à les remercier aussi, tous ces professionnels du monde végétal qui jouent le jeu et qui commencent à réfléchir à leurs déchets et à comment travailler cette fin de chaîne.
Ouais, tu me donnes envie de te poser cette question quand même. J'imagine que là, vous venez quand même vachement les secouer. Hein. Eux, ils ronronnaient depuis des années, parfois des décennies, sur un modèle tout à fait classique. Et là, vous arrivez en leur disant, non mais en fait, vos déchets sont des ressources et vont nous permettre d'avoir un vrai impact social. Ça doit les faire tiquer, non ?
Ouais, complètement. Alors, il y en a qui accrochent tout de suite et d'autres peu parce que c'est quand même le monde de l'agriculture et ils ont des besoins économiques et de rentabilité qui sont très présents, donc ils sont vraiment le nez dans le guidon, quoi. Comme des agriculteurs, il faut faire la production, il faut y aller. Et en fait, avec tous les changements climatiques aujourd'hui, c'est hyper compliqué pour un pépiniériste de tenir ces rythmes de production avec les aléas climatiques. Il y a de plus en plus de plantes, c'est très difficile de savoir ce qui va arriver en fin de chaîne. Et du coup, c'est pas évident quand on fait beaucoup, beaucoup de production de plantes, d'optimiser et d'avoir peu de déchets. Et c'est vrai que là, on leur propose en fait une solution, un service en fait, qui leur correspond, en tout cas pour les grossistes. Et c'est assez chouette aussi de voir comment ils incluent la dimension sociale dans leur projet maintenant qu'on est présent. Et ça fait un peu changer leur mentalité sur leur responsabilité sociale et environnementale. Donc c'est un sujet nouveau pour ces professionnels du secteur.
On va bientôt voyager vers les utopies vivantes et partir ensemble en 2030 glorieuse, Solène. Mais avant, l'invité vient avec un cadeau. Et toi, du coup, tu nous apportes une parenthèse d'inspiration à travers un passage d'un livre qui t'a marqué et qui représente, selon toi, les valeurs que tu as envie de se voir développer en 2030 glorieuse. Lequel est-ce ?
Et c'est un livre de Frédéric Lenoir, qui est un recueil en fait d'histoires et d'enseignements de différents sages qui viennent au Tibet. Différents sages de différentes religions qui viennent au Tibet enseigner deux jeunes sur l'enseignement de la vie. Et je souhaitais vous partager un extrait sur le sens de la vie. Un sage prit la parole et dit « Ô enfants des hommes, écoutez le premier noble enseignement sur le sens de la vie humaine. La plupart des malheurs de l'humanité viennent du fait que bien des hommes, surtout ceux qui exercent le pouvoir et possèdent la richesse, ne se sont jamais interrogés sur la signification de leur existence. Ils vivent suivant la pente de leurs pulsions et de leurs besoins matériels. Ils descendent, inconscients, le fleuve de l'existence, tels des bûches ballottées par les eaux, sans jamais rien maîtriser du cours de leur vie. À ce compte-là, même les cadavres jetés dans la rivière descendent plus vite que les vivants. Mais est-il encore un vivant, celui qui ne vit que selon les besoins immédiats de son corps et étouffe les questions et les besoins de son âme ? Pourquoi sommes-nous sur Terre ? Avons-nous chacun quelque chose de particulier à réaliser ? Les événements qui nous arrivent sont-ils seulement le fruit du hasard ou ils ont une signification ? Avons-nous une destinée à accomplir ? Sommes-nous le jouet de nos instincts et de notre éducation ou bien pouvons-nous acquérir une vraie liberté ? Et si tel est le cas, comment en faire bon usage ? Sur quel rocher fonder notre vie ? Peut-on atteindre un bonheur véritable et durable ? Comment nourrir notre âme autant que notre corps et comment faciliter la bonne entente de cet attelage de l'être humain ? Notre esprit disparaît-il avec le corps physique ? Continue-t-il d'exister dans une autre dimension ou est-il appelé à renaître dans un autre corps ? Voici les questions que devrait se poser tout être humain lorsqu'il comprend qu'il n'est pas qu'un animal soumis aux lois universelles du plaisir et du déplaisir, de l'attraction et de la répulsion. Lorsqu'il découvre qu'il possède un esprit ou une âme spirituelle, peu importe les mots utilisés qui lui permettent de maîtriser son corps, ses émotions, ses pulsions. La grandeur de l'être humain, c'est qu'il est le seul être vivant qui puisse s'interroger sur la signification de son existence et lui donner une direction, un but. Mais malheureux l'homme qui n'a pas découvert le sanctuaire de l'esprit. Malheureux celui qui n'a d'autres préoccupations que de survivre. Malheureux l'homme qui ne se pose jamais la question « Comment vivre de manière proprement humaine ? Comment mener une vie bonne ? Qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Comment devenir pleinement moi-même et être utile aux autres ? Comment réussir ma vie afin qu'à l'instant de ma mort, je puisse partir en paix et regarder derrière moi le cœur serein ? Malheureux l'homme qui ne sait pas qu'il possède deux grands trésors à l'intérieur de lui-même, la clarté de l'esprit qui peut le rendre libre et la bonté du cœur qui peut le rendre heureux. Malheureux l'homme qui mène une existence semblable à celle des bêtes, enchaîné à ses instincts et seulement préoccupé des soucis matériels de la vie. Malheureux l'homme qui ne sait pas qu'il est un homme.
Merci Solène. Ça y est, nous sommes en 2030 glorieuse et nous allons réfléchir ensemble à justement comment l'humanité a réussi à remettre notre humanité au cœur de ce vivre ensemble, mais aussi au cœur de la reconnexion au vivant, qui est aujourd'hui une priorité en 2030 glorieuse. Les personnes qui nous écoutent, elles sont restées en 2022, les pauvres. Et du coup, nous allons avoir le devoir, Solène, et de réussir à leur donner le maximum de détails, le maximum de sons, le maximum de couleurs pour faire en sorte qu'elles puissent vivre ce voyage avec nous. Nous, forcément, c'est un jeu de l'imagination que nous allons faire. Hein, donc, ces 2030 glorieuses, elles nous appartiennent et je pense que personne ne nous en voudra si elles n'adviennent pas exactement comme on les a imaginées pendant ces 15 minutes qui viennent. Ok ? À nous d'arriver à parler du coup au présent depuis les 2030 glorieuses pour donner ce fameux cap et amener les personnes qui nous écoutent à se poser des questions qui leur permettront de se mettre encore plus en mouvement pour les faire advenir dès aujourd'hui ces 2030 glorieuses. Moi, la première question que je te pose, Solène, c'est du coup, tu as ouvert les yeux, tu es en 2030 glorieuse, qu'est-ce que tu vois autour de toi ?
Autour de moi, en 2030 glorieuse, je vois des ressourceries spécialisées sur des thématiques particulières, les plantes, les arts du fil, qui travaillent vraiment main dans la main avec des professionnels pour valoriser et prendre soin des déchets, leur redonner une valeur. Tout ce qui a été créé a une valeur. Je vois des personnes qui réfléchissent aux plantes, qui les considèrent aussi comme des êtres vivants, qui en prennent soin, qui réfléchissent au fait que, au lieu de les arracher, où on peut les remettre, qu'est-ce qu'elles peuvent construire, ces plantes. En 2030 glorieuse, la ville, elle est débétonisée. Il y a des espaces de jungle urbaine qui permettent d'adoucir la chaleur, qui permettent aux personnes de se sentir bien en ville et de retrouver un peu de nature. On a de plus en plus en France de pépinières de jeunes pousses, d'élevage. La production de végétaux redevient française. On a des fermes actuellement en fait qui se créent, des fermes florales qui permettent de suivre les saisons et de faire des productions qui suivent la plante et leur temps, leur rythme. En 2030 glorieuse, moi je vois que on utilise tous les espaces vacants, même de manière momentanée, pour proposer à tous un toit, un logement d'abord. Et ces espaces vacants, c'est des lieux où les gens échangent, ils se rencontrent, où le lien social devient plus important et personne n'est mis de côté. En 2030 glorieuse, il n'y a pas de personne à la rue. On propose en fait aux personnes à la rue un logement. On propose... En 2030 glorieuse, on crée des habitats légers qui permettent en fait aux personnes sans domicile fixe de sortir d'un parcours de rue difficile et d'être encore pas très loin de la rue pour une acclimatation en douceur dans un hébergement qui est plus léger, plus en lien avec la nature. En 2030 glorieuse, on réfléchit vraiment à l'emploi, à notre emploi et à la flexibilité, pour en fait vivre et travailler en même temps, avoir un travail qui a du sens et un travail qui soit flexible. Par exemple, on a du travail à l'heure pour les personnes sans domicile fixe, mais ce travail à l'heure, s'adapte à tous. C'est-à-dire que ça peut être une personne qui a envie de travailler un peu moins et de faire passer sa vie personnelle, sa famille ou de travailler à un autre sujet, qui peut travailler quelques heures dans la semaine et arriver à vivre correctement et vivre sainement. Ce travail, à l'heure, il s'adapte aussi aux personnes les plus âgées, qui sont fatiguées et qui arrivent en fin de carrière, et qui ont envie de dédier leur temps de vie sur autre chose, sur leur passion, sur comment prendre soin de leur jardin.
Ouais, tu as touché du doigt plein de choses qu'on va creuser ensemble, Solène. Et à la fois, tout de suite, tu as montré comment, en 2030 glorieuse, l'humanité, elle a réussi à reprendre sa place parmi le vivant. Tu le disais très bien, on a arrêté de voir notamment les végétaux pour les simples services écosystémiques qu'ils pouvaient nous rendre. Mais aujourd'hui, on les voit comme des compagnons dans nos vies, dans nos villes. Et ça, ça passe forcément par une reconsidération de ce vivant, mais aussi un apprentissage plus poussé de toutes ses vertus, de toute sa complexité. Aujourd'hui, on a à l'école des cours de biodiversité qui nous permettent de vraiment se rendre compte à quel point ce vivant, il mérite d'être respecté, suivi, étudié, écouté, et même de s'en inspirer pour tout un tas de choses. Hein. J'imagine assez bien les idées et les perspectives, et on peut en reparler ensemble. Mais c'est vraiment en fait un changement de mentalité fort qui a été fait.
Ouais. Mais ouais, c'est de remettre tout ce qui est vivant à sa place et de faire en sorte que ce vivant il continue, il perdure avec nous. De réfléchir au fait que on est juste un être vivant parmi tous ces êtres vivants et ces végétaux en font partie. Donc comment on peut tirer profit de tout ça?
Ouais, et au milieu de tout ça, la Brocante Verte, elle a bien grandi puisque l'association, elle a fêté ses 10 ans il y a peu. Est-ce que tu peux me raconter où vous en êtes aujourd'hui avec la Brocante Verte?
Eh bien, la Brocante Verte, elle a fêté ses 10 ans, mais elle reste toujours sur un format petite échelle où elle accompagne 4-5 personnes sur un parcours d'un an en insertion, où elle travaille avec un réseau d'une vingtaine de professionnels du monde végétal. Mais par contre, la Brocante Verte, elle est présente partout, dans différents territoires, sous d'autres formes, mais toujours avec ses valeurs de travailler l'insertion des personnes sans domicile fixe, d'ajuster à un travail qui s'ajuste en fait à leur vie, et de travailler localement avec les acteurs du monde végétal. Donc en fait, il y a plein de petites pousses de la Brocante Verte qui vivent dans différents territoires, et sous un format micro, avec des petites équipes qui se connaissent bien, qui s'entraident, et qui vont pousser la relation avec les personnes sans domicile fixe pour vraiment les aider à sortir de cette sphère de la grande exclusion et à briser un peu tous les cercles de résilience.
Ouais, hein, vous avez inspiré tout un tas de projets de réinsertion des personnes éloignées de l'emploi dans des pépinières, mais aussi plus largement dans les parcs, les jardins. Et aujourd'hui, vous témoignez de cette expérience, vous formez les accompagnants de tout un tas de structures en France pour continuer à valoriser les végétaux et les êtres humains sur tout le territoire.
Ouais. Et la Brocante Verte a aussi ce volet formation et sensibilisation pour former toute personne qui le souhaite à prendre soin des végétaux, mais aussi former toute personne qui le souhaite à avoir une démarche de sauvetage de plantes chez les professionnels, chez les particuliers, dans les parcs, dans les cimetières, dans les jardins. C'est pas évident de réfléchir à ça.
Non, c'est pas évident, hein. Et à la fois, maintenant, je vois bien le côté de la Brocante Verte qui, en fait, a un peu copié le modèle d'AT Descartes-Monde, qui est une association largement reconnue, qui existe depuis des décennies en France et qui, elle, fonctionne toujours sur le même modèle, c'est-à-dire l'expérimentation d'abord et puis ensuite la mise à l'échelle par la loi, par l'accompagnement de l'État qui s'inspirerait de ces démarches. Finalement, la Brocante Verte, elle a fait ça. Pendant 10 ans, elle a expérimenté comment revaloriser les végétaux, comment revaloriser les hommes. Et aujourd'hui, il y a une école de la Brocante Verte. Et il y a une partie aussi plaidoyer de la Brocante Verte pour pouvoir justement s'immiscer un peu dans toutes ces anciennes pratiques qui n'ont plus lieu d'être.
Oui, tout à fait. Et puis la Brocante Verte, ça s'adapte à différents publics. Voilà, on a démarré avec le public SDF, mais elle peut s'adapter et elle s'adapte avec différents publics en fonction des secteurs géographiques. Ça peut être l'handicap, la jeunesse, les personnes plus âgées.
Et pourquoi ça marche avec tous ces profils? Qu'est-ce qui fait dans l'expérience de la Brocante Verte et dans ce lien fort aux végétaux que finalement on arrive toujours à trouver une place pour tout le monde?
Ben, ça fonctionne parce que l'activité, elle a vraiment un sens. Et au jour le jour, ben, on voit les végétaux évoluer, on voit l'impact sur ben, le nombre de plantes sauvées. Et c'est un bonheur pour les personnes, en fait, de voir grandir ces végétaux et ce mouvement se faire connaître auprès des citoyens nantais. Et ça a un impact puisque les personnes sont mises en avant, en fait, à travers cette activité, tout simplement. C'est elles qui sont les sauveuses des plantes, c'est elles qui sont les formatrices, c'est elles qui font cette sensibilisation auprès des citoyens nantais et qui sont en mesure, en fait, de faire vivre l'activité.
À l'époque, dans les manifestations pour le climat, on voyait souvent ces phrases qui disaient que l'écologie sans social, c'est du jardinage. Et aujourd'hui, en 2030 glorieuse, on a assisté à ce revirement complet de paradigme économique, puisque, tu le disais tout à l'heure, les déchets sont devenus des vraies valeurs. On le voit avec les ressourceries, hein. Ressourceries, tu l'as dit, variées, puisque ressourceries classiques, ressourceries sportives, des ressourceries aussi qui promeuvent l'upcycling, des ressourceries végétales comme la brocante verte. En fait, aujourd'hui, on a ce déploiement de toute cette revalorisation des déchets qui en profite pour donner de l'emploi à des personnes éloignées, notamment à travers l'initiative Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à ce sujet, Solène, s'il te plaît ?
Oui, l'activité en fait, de ressourcerie, elle donne toute sa place à ces personnes éloignées de l'emploi. Et en fait, en 2030 glorieuse, c'est vrai qu'on... Malheureusement, les situations de pauvreté, bah, elles sont présentes. Elles sont bien plus importantes qu'il y a quelques années, du fait des changements climatiques, des mouvements migratoires. Et on accepte, en fait, on accepte que, il faut inclure dans la société toute personne qui est en transition de vie ou en bascule de vie et qui a basculé dans la précarité du jour au lendemain à cause de crise économique, sanitaire ou climatique. Et on apporte, en fait, à travers l'emploi de la brocante verte, une flexibilité à ça, de se dire que, voilà, on peut redonner de la valeur à des déchets et tout en proposant un travail qui s'adapte à tout profil, un travail qui s'adapte tout en flexibilité à des personnes qui ont perdu un peu le sens de leur vie. Et on redonne à travers ces ressourceries végétales une légitimité aux gens qui ont perdu un petit peu le cours de leur vie. Et on accepte que d'intégrer tous ces profils.
Et puis en plus, ce n'est pas des métiers déshumanisants, hein. C'est des métiers ciselés, peaufinés, adaptés à haute valeur créative, puisque si effectivement il y a cette tâche assez redondante, répétitive de chaque jour revenir devant cette matière à laquelle on doit redonner de la valeur. Et quand je dis matière, je parle encore une fois de ces vêtements, de ces meubles, de ces livres, de ces végétaux. Mais en fait, on accepte aussi qu'à chaque fois, il doit y avoir un diagnostic très pointu, très particulier, très spécifique et un accompagnement qui demande du temps. Si bien qu'on sort un peu de ce productivisme sans queue ni tête qui mettait les gens sous pression.
Oui, bon, complètement. Et c'est un accompagnement qui est quasiment du one-to-one, hein, où on passe du temps à former pendant une heure, deux heures les personnes sur comment arroser, tout simplement, les différentes techniques d'arrosage, comment découvrir les insectes, les maladies qui peuvent toucher les plantes, mais aussi tout simplement comment conseiller, comment expliquer, comment prendre soin d'azalées, comment prendre soin de rosiers.
Toi, Solène, tu fais quoi en 2030 glorieuse ?
Moi, en 2030 glorieuse, je ne sais pas si je serai toujours à la brocante verte, mais en tout cas, j'aurai à cœur de donner ce bébé, ce gros bébé à plusieurs personnes. Que la brocante verte ne soit pas entre les mains des deux cofondatrices, mais qu'elle appartienne un peu à tous, que ça soit un outil, en fait, à l'insertion et à la valorisation des déchets végétaux. Et en 2030 glorieuse, peut-être que je serai encore dans la présidence de la Brocante Verte, mais je me vois pas mal aussi sur d'autres projets. Donc, continuer à réfléchir à l'insertion des personnes sans domicile fixe, ou alors peut-être que j'aurais complètement basculé dans le vert, dans le côté végétal.
Donc tu seras soit ministre en charge de l'insertion professionnelle et le déploiement du programme Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, soit tu seras dans ta ferme
ouais.
Au milieu du vivant.
Je pense qu'il y aura soit l'un, soit l'autre. L'envie soit de m'engager vraiment, c'est vrai que s'engager politiquement sur la politique des régions, c'est hyper intéressant, parce que c'est là où les dispositifs... naissent et se créent, mais à la fois je pense que j'aurais aussi envie d'être toujours les mains dans la terre, et peut-être que j'aurais créé ma ferme de fleurs florales ou ma pépinière de plantes exotiques, puisqu'il va faire je sais pas combien de degrés en 2030 glorieuse.
La route, elle est encore longue, Solène, avant les 2030 glorieuses, et cet exercice que nous avons fait de tenter de proposer comme ça un cap, ça va forcément vite être rattrapé par notre quotidien qui peut parfois, c'est vrai, être source d'inaction. Et puis je le dis ça pour moi le premier. Hein. Et donc du coup, ma dernière question, Solène, c'est quel est le pas suivant là que tu suggérerais aux personnes qui nous ont écoutés et qui ont envie de marcher vers ces 2030 glorieuses spécifiquement? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire là tout de suite pour les faire advenir encore plus vite?
Oser, tout simplement, en un seul mot, oser. Oser réfléchir à de nouvelles solutions, oser entreprendre et oser aller à la rencontre des autres, surtout ne pas avoir peur d'aller confronter ses idées et de les mettre en œuvre.
Et pour faire que les végétaux y reprennent toute la place qu'ils méritent au sein de notre société, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Bah, à leur échelle, ils peuvent en parler autour d'eux, ils peuvent aussi réfléchir à leur consommation. Ils peuvent aussi choisir d'acheter les végétaux les moins beaux auprès des professionnels du monde végétal pour les sauver et accepter l'état de certaines plantes et les voir changer. C'est vraiment la pratique que je conseille, c'est d'essayer de tester à les requinquer. Donc voilà, et ils peuvent aussi, bien sûr, venir à la Brocante Verte et découvrir tous les végétaux de seconde main, ou aller voir d'autres structures en France qui commencent à créer ces ressourceries végétales qui commencent à éclore un peu partout.
Merci Solène.
Merci.
Et voilà, cet épisode avec Solène Maé de la Brocante Verte vient de se terminer. Merci d'être resté jusqu'au bout de l'interview. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu donner la parole à Solène, et je remarque, avec vous sans doute, si vous suivez le podcast 2030 Glorieuse depuis longtemps, qu'il y a une vraie tendance à mêler sujets écologiques et sociaux, et qu'à travers tout un tas d'expériences que j'ai largement pu développer dans le podcast, notamment je pense à celle d'Hubert Mott avec le projet La Vie est Belle, je pense à celle avec de la tête haute à Nantes sur la brasserie engagée, je pense à celle de Carton Plein à Paris pour le déménagement à vélo. Et ben, je remarque qu'en fait très souvent ces projets-là réussissent à faire en sorte aussi de répondre aux enjeux sociaux et de permettre aux personnes éloignées de l'emploi de trouver une expérience qui soit revitalisante, qui permette de retrouver du sens, de se réaffirmer positivement aux yeux de la société, et donc voilà, de se rendre compte que en fait ces questions écologiques, à travers ces expériences très concrètes qui marchent partout sur le territoire, sont en fait de superbes prétextes pour remettre au devant aussi de notre quotidien, de nos préoccupations, les questions sociétales. Je trouve que voilà, c'est trop important pour ne pas le mentionner, et donc l'expérience de la Brocante Verte montre encore une fois à quel point cette émergence des 2030 glorieuses est aussi très très bon signe pour la création de nouveaux emplois, de nouveaux emplois qui auront beaucoup plus, qui permettront d'avoir beaucoup plus de sens, mais aussi des emplois qui permettront de donner du travail au plus grand nombre. nombre et notamment aux personnes qui actuellement sont trop souvent laissées au bord de la route. Et puis, c'est aussi la question du végétal, non plus comme quelque chose à côté, un simple objet de décoration, mais au contraire comme une remise en question de notre mode de vie, de notre mode de production, de notre mode de consommation, et donc en fait une démarche très politique à travers ce que nous a raconté Solène de la Brocante Verte. Donc elle le disait, hein, ce sont des initiatives qui commencent à pousser ça et là un peu partout en France, mais n'hésitez pas, si c'est des projets qui vous intéressent, à vous renseigner plus largement sur la Brocante Verte et puis peut-être sur ce qui existe déjà dans votre région, pour que si jamais il y a encore rien qui a été lancé dans cette thématique, bah, vous puissiez pourquoi pas vous porter un projet similaire et faire en sorte que la Brocante Verte fasse plein de petits. Voilà. Merci encore d'être resté jusqu'au bout de cette interview et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!